En gros, c'était notre prière visionnaire que je vais lire un peu plus tard. Et comme elle a dit, elle ne disait pas n'importe quoi, mais elle remettait au Seigneur notre Église et ce temps. Merci beaucoup. On va lire maintenant le texte des Rois Mages, qui est dans Matthieu chapitre 2. Et à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, vous pouvez suivre dans votre Bible ou bien... On ne sait pas. Les mages, j'allais pas en parler, mais en fait, on dit qu'ils viennent d'Orient. Ils viennent du Levant. Donc, on ne sait pas si c'est l'Iran ou l'Irak, Babylone, ou peut-être l'Arabie, on ne sait pas trop. Je vais expliquer quelle sorte de personne c'était, mais ils pouvaient venir peut-être de Perse. C'est une possibilité. Alors, je vais lire, si j'arrive à avancer. Voilà. Alors, écoutons la parole. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages, en passant, nous on dit des rois mages, mais la Bible dit que ce sont des mages, ça veut dire des espèces de magiciens. Je vais expliquer un peu plus tard qu'est-ce que c'est que les mages. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Et ils lui répondirent, « À Bethléem en Judée. » Car voici ce qui a été écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile avait apparu, puis... Il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-moi le savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » C'était pas sincère. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Hop là, on est rendu où? Oh, excusez, je n'ai pas fait attention. Voilà. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait au-devant d'eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent un cadeau. En cadeau, ils offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos vies. Alors ce matin, on va considérer l'importance des mages dans l'histoire de Noël parce qu'on va voir que les mages, c'est nous. Ils nous représentent. Leur histoire s'applique à toi, à moi et aussi à l'Oasis. Qui sont les mages? Les historiens nous disent que ce sont des astrologues religieux. Et il en existait beaucoup dans différents pays de cette région du monde à cette époque. C'est pour ça qu'on n'est pas trop sûr de quel pays. Et si Matthieu ne le dit pas, c'est qu'en quelque part, ce n'est pas important exactement d'où ils viennent. Mais j'ai dit que c'est des astrologues. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un astrologue? Un astrologue, c'est quelqu'un qui, en lisant la configuration des planètes et des étoiles, peuvent prédire l'avenir du monde et même ton avenir. Donc, c'est une forme d'occultisme. Et dans le monde ancien, on consultait des astrologues religieux comme des sages, comme des gens qui pouvaient nous donner sagesse pour mon avenir, pour ma vie. Et ça se passait dans beaucoup de pays différents de ce monde-là, le monde de la Bible. Comme j'ai dit, Perse, Babylone, Arabie et aussi, sous leur forme à eux, les Égyptiens avaient des mages aussi. C'est important de préciser que ce n'étaient pas des gens qui connaissaient le Dieu d'Israël. Ils étaient vraiment immergés dans leur propre monde religieux à eux. Et dans leur religion, ils pouvaient avoir plusieurs dieux et des fausses compréhensions sur ce qui se passait dans le monde spirituel. Dans leur religion, ils pouvaient souvent avoir une idée vague du Dieu suprême. Et cette idée vague contenait de la vérité et de l'erreur. Hein? Souvent, dans ce monde-là, on pensait qu'il pouvait y avoir un Dieu suprême, mais qui était inaccessible. Le Dieu au-dessus des dieux plus petits qui étaient plus intéressants. Les plus petits dieux, eux, souvent, on pouvait leur demander des choses concrètes, alors que le Dieu suprême était inaccessible. Mais il y avait quand même cette idée qu'il était là. Et c'est bien possible que les mages avaient cette idée-là, que c'était le Dieu suprême qui leur avait envoyé cette étoile spéciale. Donc, les mages ne connaissaient pas Dieu, mais on voit que Dieu, lui, il les connaît. Et Dieu agit de sorte qu'ils puissent venir à lui. Donc, on voit dans cette histoire que Dieu, c'est un Dieu missionnaire qui va vers les gens, qui va vers ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, peut-être un petit mot sur l'astrologie. La Bible interdit l'astrologie, même pour les chrétiens. Donc, c'est quelque chose qui est spécifié dans l'Ancien Testament et qui est d'une manière répétée dans le Nouveau Testament. La Bible interdit toutes les formes d'occultisme, dont l'astrologie. Pourquoi? Dieu veut que ses enfants, lorsqu'ils apprennent à le connaître, apprennent à vivre pleinement avec leur confiance en Dieu lui-même. Nous marchons dans la foi dans un Dieu qui prépare notre avenir. Et on y va dans la foi, avec de l'intelligence. On consulte aussi la science, la science naturelle. Il ne faut pas consulter les étoiles pour nous dire notre avenir. On marche dans une relation personnelle avec un Dieu qui nous donne sagesse pour nos décisions et qui nous donne confiance à marcher dans ce monde. Dieu veut aussi nous protéger contre la superstition et la magie. Puis l'astrologie tombe dans cette catégorie. C'est quoi la superstition? C'est quoi la magie? Bien, je dis ça très, très brièvement. Mais en gros, c'est une façon de vivre religieuse basée sur la peur, où on se dit, si je fais certains rituels, ça va me protéger ou bien ça va préparer mon avenir. Mais c'est faux. selon Dieu. Et ça peut amener à toutes sortes de problèmes. Je peux donner un exemple que j'ai lu dans un cours sur les différentes religions. Il existe des cultures où est-ce qu'on pense que la mort, c'est comme une divinité qui a un appétit, qui aime manger les gens, et notamment les bébés. Donc, quand une femme est à veille d'accoucher, on pense que la mort peut venir rôder par là et venir manger l'enfant qui va sortir, c'est-à-dire le faire mourir. Alors, on se dit, bien, surtout si l'enfant est beau, la mort va être attirée. On va lui donner un nom qui va tromper la mort. Alors, il y a des cultures qui existent où on va dire, l'enfant, on va l'appeler laid. On va l'appeler puant. On va l'appeler... j'ai des yeux qui ne sont pas beaux. Des choses comme ça pour tromper la mort, pour pas que l'enfant soit tué par ce démon qui s'appelle la mort. Donc, voyez-vous comment, au lieu de faire confiance à Dieu pour la naissance de l'enfant, on va faire des rituels qui pourraient faire du tort à l'enfant. Peut-être il est beau, mais il a un nom, je suis laid. Voyez-vous un peu comment la superstition, c'est quelque chose, Dieu veut qu'on sorte pour qu'on vive dans la liberté. Amen?
Amen.
Amen. Alors, les astrologues, qui sont les mages ici dans l'histoire, vivaient dans un tel monde. Et ce qui est beau dans ce texte, c'est que le Dieu de Jésus, le vrai Dieu, celui qui s'est révélé à Israël, il vient parler à ces astrologues-là dans leur monde, dans leur langage, à travers une étoile, pour les faire venir à Bethléem et connaître la vérité. C'est merveilleux comment Dieu nous aime. C'est le cas pour chacun d'entre nous. Il vient nous chercher là où nous sommes, avec le langage que nous, on connaît. Et parfois, il fait des compensations ou quel est le mot que je cherche? Il fait des arrangements avec les erreurs dans notre façon de penser pour nous amener à rencontrer Christ. Et une fois qu'on rencontre Jésus, tout commence à changer. Progressivement, on sort de nos fausses conceptions et Dieu nous amène dans les vrais. Quel amour! Et Dieu est patient avec nous. Alors, Dieu n'encourage pas l'astrologie, mais il peut, s'il veut, utiliser l'astrologie pour parler à quelqu'un qui est pogné là-dedans, comme les mages ici, pour ensuite, par sa grâce, les faire sortir de cela et les amener à l'adoration du vrai Dieu. Quel amour! Soyons dans l'adoration et dans le remerciement pour ce Dieu qui vient nous chercher tel que nous sommes, le Dieu missionnaire. Est-ce que Dieu est venu te chercher là où tu étais? Peut-être que tu n'en es pas encore certain, mais je te dis ce matin, Dieu t'aime tel que tu es. Dieu vient te chercher, Dieu veut t'enseigner à le connaître tel qu'il est, et ça va être bon. Les mages sont venus à Bethléem en suivant un astre miraculeux. Alors, ça, c'est vraiment, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a vraiment eu quelque chose de surnaturel, une étoile qui a indiqué une maison particulière ou une grange particulière. Et vous savez, ils sont venus, ces astrologues, adorer l'enfant avec la compréhension qu'ils avaient, avec les ressources qu'ils avaient, avec les méthodes qu'ils avaient. Et Dieu l'accueille. Alors, on voit que c'est marqué qu'ils l'ont adoré. On pense que c'est plutôt, ils lui ont rendu hommage comme à un nouveau roi. Il y avait un côté un peu politique et gouvernemental et diplomatique là-dedans. Ils se sont prosternés, oui. On peut imaginer que c'était un prosternement un peu protocolaire, comme de gouvernement à gouvernement. Et les cadeaux aussi sont assez protocolaires aussi. C'est beau de les voir avec leur or, leur argent. Pardon, pas l'argent, mais la myrrhe et l'encens. C'est des cadeaux diplomatiques pour un nouveau roi. Mais Dieu les accueille. Dieu va leur enseigner quelle sorte de sacrifice il veut vraiment. Mais pas tout de suite. Ces mages sont une image de toi et de moi, de nous. Les mages viennent d'un pays lointain. Ils viennent d'un monde religieux éloigné. J'ai aimé la question de Shadan tantôt. Est-ce que c'était peut-être de mon pays? En fait, ils nous représentent tous. Nous sommes ici à l'Oasis des gens de différentes nations, différentes ethnies, cultures, backgrounds religieux, langues, générations, et aussi nos péchés générationnels qu'on porte avec nous. On en a tous. Et comme les mages en avaient aussi, nous sommes invités à venir adorer Jésus et à être transformés ensemble comme un peuple nouveau. Amen. Vous savez, dès le début de l'Évangile, les missionnaires chrétiens, ça commence dans le livre des Actes, ils partent parce que Jésus a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Ils sont partis et ils ont compris ce principe qui vient du caractère de Dieu lui-même. Aller vers les nations et les inviter à venir adorer Jésus. Ils savaient que la compréhension, ça prendrait du temps. Mais au départ, c'est Dieu qui, de manière, dans son amour inconditionnel, il invite les gens tels qu'ils sont. Et tu es invité tel que tu es. Et j'allais dire aussi, c'est pas facile pour les missionnaires. Eux, ils vont vers... le projet Jaffré, c'est quoi? C'est on lève des fonds pour envoyer des missionnaires dans des peuples non atteints. Ils vont vers des gens. Ils doivent se faire accueillir. Ils doivent se faire accueillir. C'est pas évident. Avec un message qui est dérangeant. Repentez-vous, croyez dans le vrai Dieu. Ils doivent se faire accueillir, mais au fond, c'est eux qui accueillent. C'est ça qui est bizarre, c'est que le missionnaire va avec un message, « Dieu t'accueille ». Et c'est ce que les missionnaires ont toujours fait. Et moi, j'ai toujours été touché par l'histoire de Jean de Brébeuf. Jean de Brébeuf, qui a vécu dans le 17e siècle, c'est un missionnaire jésuite. OK, il y en a beaucoup qui n'aiment pas les jésuites, mais quand même, c'était des gens qui croyaient en Jésus-Christ. Je dis, ils n'aimaient pas les jésuites parce que, bon, ils ont un historique avec beaucoup de bonnes choses et beaucoup de mauvaises choses. Mais bon, bref, ce Jean de Brébeuf était un personnage exceptionnel. Il venait de France et il est venu en Nouvelle-France pour faire connaître Jésus aux Autochtones, aux Premières Nations, particulièrement les Hurons. Particulièrement les Hurons qui habitaient l'Ontario actuel. Et il a voulu qu'ils comprennent Noël. Et il a... Alors, voilà une image de lui avec un, j'imagine, un Huron. de cette époque-là, il a composé un cantique de Noël dans la langue Wendat. Ça, c'est... Il a composé un cantique de Noël qui s'appelle le Noël Huron, ou en Wendat, Jesus Ahatonia. Et dans ce cantique, je ne vous le chanterai pas, et il existe en français, malheureusement, les paroles ont été changées un peu, parce que dans l'original, il y a vraiment donc Jean de Brébeuf qui comprenait comment ça fonctionnait pour attirer les nouveaux. Il utilisait le langage qu'eux comprenaient. Il disait que Jésus est né en hiver, quand le sol était couvert de neige. Hein? C'est quelque chose qu'eux comprenaient. Il disait que tous les oiseaux étaient partis. On n'entendait plus leur chant, hein? Comme l'hiver canadien. Et c'est à ce moment-là, quand il n'y avait plus le bruit des oiseaux, que le grand Manitou, Louise, Manitou, ça veut dire quoi dans les langues amérindiennes? Manitou? Le grand chef ou Dieu. Donc, dans beaucoup de langues autochtones, on dit que Dieu, c'est Manitou. Et le grand Manitou envoie des anges pour annoncer. Est-ce qu'il y a un problème? OK. Le grand Manitou envoie ses anges pour annoncer à qui dans les champs? Aux chasseurs, les chasseurs qui sont dans les champs. Hein? Donc, il a remplacé les bergers parce qu'ils ne comprenaient pas ce concept-là par des chasseurs que Jésus, votre roi, est né. Il dit aux chasseurs, « Allez, dans une hutte faite d'écorce brisée. » Et c'est là que le bébé, vous allez voir le bébé qui est le roi. Il est avec sa mère, emmailloté dans une robe, une vieille robe faite de peau de lapin. OK, donc ça, dans la compréhension de ces gens-là, à l'époque, la peau de lapin, c'était pour les pauvres. Et voilà, donc, vous voyez un peu comment le missionnaire fait pour amener les gens à venir entendre l'Évangile et à venir connaître le vrai Jésus. Et une fois qu'ils comprennent, ils peuvent lire la Bible dans le langage biblique. Les mages qui viennent dans ce champ-là, ce sont des chefs qui viennent de loin. Et ils amènent des cadeaux, non pas d'argent, d'or, d'encens et de myrrhe, mais des peaux de renard et des peaux de castor. Alors, c'est un très beau chant qui nous montre un peu comment Dieu vient parler aux gens dans leur langage, un peu comme Dieu a fait avec les mages. Mes frères et sœurs de l'Oasis, suivons l'exemple des missionnaires. Allons vers les nations pour qu'ils soient accueillis. Portons vers eux l'accueil de Dieu, un accueil pour tous les peuples. Ce Dieu qui sauve les pécheurs là où ils sont, qui les accepte et qui valorise leur culture pour y planter la belle fleur de son Église. Hein, le Québec aussi, le peuple québécois est aussi une terre de mission. Et nous sommes cette fleur que Dieu a plantée ici. Voilà pourquoi nous demandons à Dieu de faire de l'Oasis une Église accueillante pour toutes les nations. On veut que l'image de 2022, qui vienne de loin, que vous soyez bien accueillis et que vous puissiez offrir à votre tour à Jésus les présents qui sont dans votre coffre de voyage. Les présents maintenant que Dieu veut aujourd'hui, il nous explique, donc ce n'est pas des sacrifices d'animaux. Jésus a pourvu le seul sacrifice nécessaire, sa mort sur la croix. Les présents que Dieu veut, ce n'est pas des cadeaux diplomatiques comme l'or, l'encens et la myrrhe. Tout l'or et la myrrhe appartient déjà à Dieu. Mais voici ce que Dieu dit qu'il veut qu'on apprenne à lui donner chaque jour. Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Donc, on glorifie son nom, non seulement dans nos prières privées, mais aussi quand on parle aux autres et aussi quand on est rassemblé dans son peuple. Hein? Offrons-lui sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas aussi de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Donc, Hébreux 13, 15 à 16. Donc, on confesse son nom, on proclame notre amour, notre appartenance à lui, que ce soit ici dans l'Assemblée, mais aussi quand on est seul et aussi quand on est avec des gens qui ne le connaissent pas encore. Louise, tu voulais dire quelque chose? Oui? Oui. Oui. Oui, amen. Oui. Oui, oui. Merci beaucoup. Non, non, non. Oui. Oui, merci. Merci. Oui, et j'ajouterais que les Premières Nations, il y a une ouverture envers l'idée d'un Dieu créateur, parce que en quelque part, ils le connaissent déjà. Et ils ont leur vision à eux. Ils ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas encore entendu. Mais dans leurs anciennes compréhensions religieuses, il y a cette idée d'un Dieu qui a créé les animaux. Et voilà pourquoi il le remercie. Nous avons, dans notre Église, une prière visionnaire qu'on a écrite nous-mêmes il y a plusieurs années. C'est celle-là que Shannon a priée au début. Et on va la réviser ensemble. Et peut-être vous ne pouvez pas voir très bien, mais... Et ça parle de cette vision de qui nous sommes en tant qu'Église et de cet accueil des mages de notre époque. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, de tout notre cœur, nous aspirons à être une Église qui glorifie ton nom. Fais de nous une maison de prière pour tous les peuples et pour toutes les générations. Rassemble-nous pour t'aimer et te servir pour nous aimer les uns les autres, pour mieux te connaître et mieux te faire connaître. Nous voici, Seigneur, répands ton esprit sur nous pour que nos voisins, notre ville, les régions environnantes et même toutes les nations entendent ton évangile, se tournent vers toi et glorifient ton nom. Amen.